Toc et toc.
Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouge, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy Polarski.
Voilà, il est bien là. Au sommaire de ce Variation en noir numéro 15, pour ce dernier vendredi du mois de janvier, retour sur un écrivain qui est mort en novembre dernier, Jean-François Villard. Il n'a pas été publié en série noire, mais n'en reste pas moins un auteur important pour le roman noir français. J'ai évoqué la série noire car elle fête en cette année 2015 ses 70 ans, et à cette occasion, le dernier numéro de la revue 813 lui consacre un dossier spécial, et nous allons donc en parler avec Hervé, mais aussi avec Jean de PFM. Bonjour Jean.
Salut.
Jean qui est aux commandes de l'incontournable émission Tumulte en direct tous les mardis à 20h. Et Jean, surtout, qui est un lecteur avisé et de Jean-François Villard et de Série Noire. Alors, tout de suite, Hervé, un hommage à Jean-François Villard, dont on a appris la mort fin décembre dernier, avec une première particularité, mais qui est sans doute révélatrice du personnage Jean-François Villard. C'est cette mort, on l'a appris vers le 20 décembre, un peu plus tard, alors que elle avait lieu un mois auparavant.
Oui, selon on l'a appris en fait par un coup de téléphone de sa compagne à un ami, mais elle avait, selon semble-t-il les souhaits de Jean-François Villard, elle s'était faite dans la plus extrême discrétion, comme avait été d'ailleurs bien des années passées, puisque le dernier roman de Jean-François Villard remonte, je crois, à 1993. Ça veut dire une vingtaine d'années de silence, ce qui est énorme, si ce n'est un article ou un petit texte de ci de là, mais de façon extrêmement discrète.
Oui, donc Hervé Villard a écrit, en fin de compte, 8
romans.
Jean-François, oui, pourquoi je dis
le chanteur.
Quoi. Oui, c'est le chanteur. Et puis il y a des Villard, il y en a beaucoup en fin de compte. Hein. Jean-François Villard a écrit 8 romans, le premier en 1982, Hervé. Et donc,
oui,
comme tu l'as dit.
C'est toujours les autres qui meurent. Il avait, je crois qu'à l'époque, il était un militant, un responsable actif de la LCR, l'organisation trotskiste d'Alain Krivine à l'époque, depuis très longtemps, et je crois qu'il couvrait une manifestation, comme Jean, il était journaliste à Rouge, il couvrait une manifestation de motards, et il a fait une chute, il était hospitalisé, et il a, à ce moment-là, il y avait un concours Télérama de romans noirs, il a concouru, et son roman a eu le prix et a été publié dans la collection Fayard Noir, qui était dirigée à l'époque par Delacorta et François Guérif.
Alors donc, 8 romans, quelqu'un de très discret, même un peu secret, qui communiquait très peu, et notamment, tu l'as dit, hein, depuis la publication de son dernier roman, mais aussi quelqu'un de très érudit. C'est souvent ce que l'on retient des des livres de Jean-François Villard, une érudition, une forte érudition au service d'une littérature noire qui embrassait l'histoire du mouvement ouvrier, les arcanes et donc les arcanes de la littérature populaire. Il a écrit autour de la Révolution française, il a écrit aussi autour des milieux artistiques et en particulier du surréalisme.
Oui, tout à fait. Il avait des figures tutélaires, disons, qui étaient aussi bien les surréalistes, Marcel Duchamp, mais également Franz Kafka et le fondateur, l'écrivain fondateur du roman noir américain, Dashiell Hammett, avec qui on peut faire un parallèle, en tout cas, sur une œuvre écrite en peu d'années, particulièrement marquante, et après un silence. Je voulais revenir sur une chose, c'est-à-dire que pendant les années 80, début 70, 80, début 90, Jean-François Villard n'était pas un silencieux. Hein. Jean-François Villard était quelqu'un aux engagements très marqué, quelqu'un qui n'hésitait pas du tout à s'engager vivement dans les débats de société, dans les débats qui agitaient l'extrême gauche, et à donner de la voix et d'une plume qu'il avait toujours, d'un extrême talent, d'une grande lucidité, d'une grande précision, avec une intransigeance c'était pas un mou, Jean-François Villard. Mais c'est au mi-temps des années 90 que ce fut le silence. Voilà. Mais
il y a
un parallèle à faire pour terminer, justement, c'est ce que je voulais dire avec Dashiell Hammett, une fois l'œuvre écrite et dans toute une partie de la fin de sa vie. Ils avaient aussi en commun ce souci du style, c'est-à-dire du fait que il s'agissait pas juste d'écrire des histoires polars, loin de là, mais qu'il fallait qu'il y ait un style qui porte cela et qui contienne lui-même une certaine critique du monde.
Tu parles de Hammett, mais bon, c'est aussi un profil qui fait penser à Jean-Patrick Manchette,
oui.
Un nombre de romans pas très très important par rapport à beaucoup d'autres auteurs de romans noirs, et puis une dernière période assez silencieuse.
Faire ce parallèle tous ces trois personnes qui sont trois écrivains immenses, à mon avis. C'est de 5 à 10 romans et écrits dans des périodes qui courent souvent sur 5 à 10 ans, hein, et puis voilà. Mais qui marque la preuve, c'est que, au bout de 20 ans, Jean-François Villard, alors que bien des écrivains de ces années qu'on a qualifiés de néopolars, ont été oubliés. Jean-François Villard est quelqu'un qui, 20 ans après, reste tout à fait marquant à travers des livres comme Bastille Tango, Les Exagérés, qui fait un retour sur Hébert, le père Duchesne, la Révolution française, et où nous cheminons entourés de fantômes au front troué, son dernier livre, qui se passe à la fois dans le Paris des années 90 et également avec des retours sur l'année 38 et sur, l'assassinat des militants trotskistes à Paris par les agents staliniens du GPU de Staline. Voilà.
Alors, nous allons revenir justement avec Jean sur ce livre, Nous cheminons entourés de fantômes au front troué, qui a été réédité quelques jours avant l'annonce de la mort de Jean-François Villard, en poche, réédité dans la collection Seuil.poche. Avant, Hervé, un dernier mot sur ce silence. silence. Apparemment, Jean-François Villard avait commencé la rédaction d'un roman autour du camp de Térésine, hein, qui servit de sinistre outil à la propagande nazie, pour vanter la manière dont il traitait les juifs déportés, et entre parenthèses, où Robert Desnos mourut. Mais il n'en vint jamais à bout de ce roman. Et c'est, est-ce que c'est une explication de son silence d'écrivain?
Oui, je pense que c'est une explication de son silence. Moi, je n'ai pas la clé de ce mystère, mais il est évident que ce roman, bon, moi, je le fréquentais au début des années 90, Jean-François Villard. Il semble, ce roman lui tenait énormément à l'esprit et au cœur. Il avait, Jean-François Villard est quelqu'un qui ne voulait pas se répéter. Je pense qu'il avait beaucoup d'exigences et que pour des raisons, alors cela qui lui appartiennent et qui reste son secret, il n'y est pas parvenu. Et je pense qu'il n'était pas du genre à vouloir passer à autre chose, mais je ne veux pas parler à sa place.
Alors Jean, tu as cheminé toi avec Jean-François Villard?
Oui, je l'ai découvert dès le premier roman, je crois que j'ai tout lu. Là, je suis en train de relire justement son dernier livre, « Nous cheminons entourés de... »
« Fantômes au front trou ».
Oui, qui est une phrase de Natalia Trotsky, la femme de Trotsky. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, j'insisterai sur le fait qu'indépendamment des dernières années où effectivement c'était le silence, malgré tout, c'est quand même Jean-François Villard une trajectoire discrète et en même temps marquante. C'est ça qui est curieux. Effectivement, je pense qu'on va redécouvrir, relire Jean-François Villard pendant pas mal d'années. Pour l'anecdote, je dirais que Jean-François Villard, c'est lui qui m'a fait découvrir le Chablis, puisque son personnage qu'on retrouve souvent, Victor Blainville, je crois, boit très souvent du Chablis après le café, le matin.
Oui, Jean-François Villard aimait beaucoup le Chablis également.
Et donc du coup, en lisant, je me souviens qu'en lisant les premiers romans de Jean-François Villard, j'ai découvert ce Chablis, je me dis, mais il faut que je le goûte, et puis effectivement, c'est un très bon vin. Je rajouterais aussi que bon, c'était un écrivain extrêmement engagé, qui a été effectivement à la LCR, dans l'organisation trotskiste. En même temps, je pense que c'était un écrivain qui est marqué quand même par la période post-68, post-militantisme quand même. Quand on lit ses livres, on a quand même un personnage central, hein, Victor Blainville, qui est revenu un peu du militantisme, tout en étant toujours sur des positions affirmées. Et il me semble qu'il est un peu significatif, Jean-François Villard, de ces militants qui ont trouvé dans le roman noir une manière d'être à nouveau dans le monde engagé à travers l'écriture, en arrivant à articuler l'engagement personnel, la mise en avant de l'individu avec ses expériences, et en même temps le collectif et l'histoire. Je trouve qu'il relève de cela, Jean-François Villard.
Je suis tout à fait, vraiment tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean. Il faut préciser que Victor Blainville, il a donc ce passé-là. Il est un photographe et non pas un flic. Jean-François Villard, qui avait choisi le terme de roman noir dès le début, qui détestait le terme de roman policier, n'aurait jamais mis en scène un personnage principal, en tout cas, qui ait un certain nombre de ses propres caractères et qui soit un flic. Et je suis d'accord avec ce passage, disons, un peu du drapeau rouge au roman noir le concernant, pour reprendre cette formule. Il y a eu sur le blog de 813, puisqu'on a, bon, c'est pas un privilège, hein, mais il se trouve que, bon, quand j'ai eu l'information, on a annoncé les premiers la nouvelle, voilà. Il y a tout de suite eu, et j'ai été touché par ça, un écrivain que je crois nous aimons beaucoup, un écrivain actuel qui s'appelle Hervé Lecor, qui ne qui n'avait jamais rencontré Jean-François Villard et qui a, selon ses mots, salué son élégance et sa mélancolie. Et il a ajouté, il a su dire la noirceur de la désillusion révolutionnaire. Je crois que ça va aussi en écho avec ce que Jean vient de dire.
Voilà, alors Hervé, tu n'es pas avec nous dans les studios, mais je te rassure, hein, Jean n'a pas ramené de bouteille de Chablis.
Et oui, mais je crois qu'il sera une bonne idée, je crois que c'est la meilleure chose qu'il aurait aimé, c'est de boire un verre de Chablis en l'honneur de Jean-François Villard, à sa mémoire, plutôt que des pleurs. Et par ailleurs, d'accord avec Jean, c'est une œuvre qui va vivre et il faut lire ses romans, quoi, voilà.
Voilà, tout à fait. Donc ta prochaine visite à Arras, eh bien on boira un verre de Chablis ensemble. Donc Jean-François Villard, et donc là vous pouvez trouver très facilement en librairie ce dernier roman. Nous cheminons entourés de fantômes au front troué en collection de poche point seuil. Variation en noir dans Variation sur Radio PFM avec Hervé de l'association 813 et Jean de l'émission Tumulte. Alors un petit test, Hervé, Jean, cette musique, vous avez reconnu quelque chose ?
Non, moi j'ai aimé, mais je n'ai pas reconnu.
Bon, la trompette, vous n'avez pas
Miles Davis ?
Miles Davis à la trompette.
Ah, bravo. Alors,
le chant et la guitare.
Moody.
Non.
Mais c'est un classique. Hein.
C'est un classique. C'est John Lee Hooker. Pour être plus, encore plus précis, donc à la batterie, Earl Palmer, et puis à la basse Tim Drummond. Et donc c'est un extrait de la bande originale du film The Hot Spot, un film de Dennis Hopper, inspiré de, librement hein, inspiré d'un roman de Charles Williams, Je t'attends au tournant, qui était la série noire, qui a été publiée en France hein, dans la série noire numéro 246 en 1955. Une réunion quand même de musiciens étonnante. Hein,
ah oui, très bien, très joli raccord voilà, en plus, hein, bravo.
John Newker, Miles Davis, dans d'autres morceaux, il y a aussi Taj Mahal hein, qui s'associe à ces musiciens. Et un film que je conseille, et pour la musique, et pour le, eh bien, et pour le film en lui-même. Donc, nous voilà arrivés au deuxième sujet de cette émission, Hervé. Donc, la revue 813 vient d'arriver. Jean me demandait hein, comment faire pour se la procurer. Donc c'est essentiellement sur abonnement. Il suffit d'aller sur le blog de 813 oui. Et puis commander la revue. On peut peut-être la commander aussi au numéro, je ne sais pas, Hervé.
On peut demander un numéro. Je crois que sur le blog 813 il y a toutes les coordonnées de l'association pour faire cela, bien évidemment.
Alors donc, un hommage, je l'ai dit, aux 70 ans de la série noire, avec une couverture hein, qui reprend le liseré jaune, hein, fond noir, caractéristique de la série noire.
Et avec la photo au milieu, on a choisi oui. de faire une couverture qui soit en écho aux séries noires c'était la couverture qu'elle avait dans les années au début des années 80 quand il y a eu oui. notamment le superbe roman Mortelle randonnée de Mark Bem par exemple.
Mais jusqu'au voilà. numéro 2000 il me semble, enfin au moins 2000 parce que le numéro 2000 de Thierry Jonquet il a aussi
la seule évolution qu'il y avait eu c'est que la photo noir et blanc qu'il y avait au centre est devenue une photo couleur ou un dessin couleur.
Alors voilà. on parle là de la couverture, mais il y a aussi la quatrième de couverture. Bon, quand on retourne 813, on n'est pas sur une quatrième de couverture de la série noire, parce qu'à l'époque, à cette époque, en quatrième de couverture, il y avait de la publicité. Hein, alors c'était des publicités très masculines, publicités pour gitane, me semble qu'il y avait un parfum
balafre. Hein, il y avait les cigarettes Bastos,
et puis il y avait aussi une boisson alcoolisée, je ne sais plus laquelle, il me semble. Hein, donc, oui. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, ni en quatrième de couverture de 813, ni sur des couvertures de livres. Alors, première chose que je fais, hein, tu sais, Hervé, quand je reçois cette revue, je me plonge dans l'édito qui est signé Hervé Delouche, bien entendu, et non pas Jean-François Delouche. J'ai compris avec Jean, on a compris entre parenthèses hein, le lapsus de tout à l'heure par rapport à Jean-François Villard. Donc je me plonge sur cet édito et surprise, en fin de compte, cet édito n'est pas consacré à la série noire.
Hervé. Non, cet édito est parce que nous avons fait après un texte de présentation du dossier avec Gwenaël Denoyer qui a coordonné le dossier Série Noire avec moi. L'édito a été était un édito donc s'efforçant dans ces cas-là choisissant plutôt de parler d'autres choses et là de mettre le projecteur sur un écrivain qui nous a quitté il y a quelques années qui s'appelle Pascal Garnier qui était à mon avis un grand grand auteur de nouvelles notamment de romans également et on a pris j'ai pris le prétexte de la reparution d'un des premiers recueils de nouvelles de Pascal Garnier qui est reparu
Vieux Bob
voilà aux éditions Inuit qui font un beau travail sur les nouvelles et où C'est paru dans une collection que dirige Marc Villard, qui s'appelle Polaroid, où il y a des nouvelles ou des novellas, c'est-à-dire ce format entre nouvelles et romans.
Oui, parce qu'il y a aussi Marc Villard.
Voilà, avec deux L et un D à la fin.
Qui lui est un des grands spécialistes de la nouvelle.
Oui, absolument.
De la nouvelle noire.
Oui,
donc Pascal Garnier, et d'ailleurs c'est un point commun avec Jean-François Villard, qui n'a pas été publié en série noire comme quelques grands auteurs du roman policier, du roman noir français. Donc une collection de références, mais qui a raté peut-être quelques écrivains, Hervé.
Ah oui, alors ça, pour des raisons que je ne sais pas forcément, mais enfin la rencontre, la série noire ne peut pas donner le tableau avec toutes les qualités qu'elle a eues, mais ne peut pas ne peut pas prétendre à l'exhaustivité en matière de romans noirs français, puisque comme tu dis, des gens comme Pascal Garnier, des gens comme Jean-François Villard, comme Frédéric Fajardi, etc., n'ont pas publié en série noire.
Alors donc, un dossier consacré à la série noire, aux 70 ans de la série noire, avec la reprise, pour commencer, d'un article de Gilles Deleuze, Philosophie de la série noire, un article qui a été publié dans la revue...
Art,
voilà, hein, et qui qu'on retrouve aussi dans un recueil de textes de Deleuze, hein, donc oui. un texte consacré à la série noire. Pourquoi ce choix, Hervé ?
Moi, c'est un texte que je connaissais depuis longtemps, pas depuis la revue Art, hein, parce que ce texte date de janvier 1966 et j'étais un peu gamin quand même pour lire ça, mais je le connaissais depuis la fin des années 80, ce texte, parce qu'il était paru dans une revue qui a disparu depuis très longtemps, avant qu'il soit repris en recueil aux éditions de Minuit. Et je trouve que, on a collectivement trouvé, ce texte qui a été écrit, la revue Art, c'était une revue donc qui s'intéressait à ce qui se faisait de neuf dans la culture dans les années 60. Il y avait notamment comme collaborateurs Truffaut, Godard, par ailleurs, qui étaient des grands lecteurs de séries noires d'ailleurs, mais des jeunes critiques à ce moment-là. Et puis, au moment où paraît le numéro 1000 de la série noire, c'est-à-dire 1275 âmes du grand Jim Thompson, on a demandé à Gilles Deleuze, qui était un grand lecteur de romans noirs également, de faire un texte. Gilles Deleuze était à l'époque un jeune philosophe qui n'avait pas beaucoup publié, Et moi, quand j'avais découvert ce texte, j'avais trouvé qu'il était c'était brillant, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut quand même se dire qu'on est au milieu des années 60. Il y a un certain nombre d'intellectuels, comme Sartre, Giono et d'autres, qui aiment la série noire. Mais enfin, globalement, la série noire, c'est ce qu'on appelle du roman de gare. Et c'est quand même extrêmement ignoré, méprisé par tout ce qui est l'intelligentsia, les milieux universitaires et tout. Et que Gilles Deleuze s'en empare à ce moment-là et fasse un texte de cette puissance-là, déjà je trouvais ça remarquable. Après il faut lire le texte et voir les choses, mais par exemple il y avait un passage qui m'avait frappé. Il disait, lui qui était un grand lecteur en général, mais il avait cette formule que je trouve très pertinente, il disait « La série noire nous a rendu familiers d'une combinaison affaires, politique, crime » qui, malgré toutes les preuves de l'histoire ancienne et présente, n'avait pas reçu son expression littéraire courante. Je trouve que ça mettait le projecteur très en avant sur ce qu'était la force du roman noir. Lui, se faisait plutôt référence au roman noir américain, évidemment, puisqu'à l'époque, à part Jean-Amila Mecker, que nous aimons beaucoup, la série noire française, c'était des histoires de truands ou des histoires d'espionnage, hein, globalement. Mais sinon, ça parlait justement de ce qu'avaient écrit les grands Américains, et ça annonçait déjà ce qu'allait être le roman noir français à partir de Manchette, de Vautrin, avec des auteurs qu'on a cités tout à l'heure, et puis avec tous ceux qu'on connaît, et jusqu'à aujourd'hui.
Alors, je vais lire quelques lignes là, de quelqu'un qui parle de la série noire, qui aurait pu figurer dans cette revue, je pense, hein, mais il y a tellement de choses à dire sur la série noire que eh bien, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc, c'est un article qui commence ainsi, qui est titré « SN Story, premier épisode ». Pour les détails anecdotiques, date, maquette, traducteur, titre, Prévert, Picasso, etc., on vous renvoie notamment aux mémoires de Marcel Duhamel, Raconte pas ta vie, Mercure de France. Ouais. Grosso modo, la série noire démarre un peu après la Seconde Guerre mondiale. Elle contribue dans une large mesure à constituer le genre hard-boiled, dur à cuire, en faisant apparaître la parenté entre des ouvrages dont l'édition initiale anglo-saxonne était éparse et dont la parenté était souvent inaperçue. On sait d'ailleurs que Duhamel reprendra ici plusieurs ouvrages déjà publiés en France en collection blanche. Les titres français et les traductions des textes sont gouvernés par une intention rigolarde et agressive que les puristes ne manqueront pas de critiquer. Il y a parfois des coupures, mais au total, il n'y a pas de doute, fallait la faire, la SN. Donc c'est un article qui date de septembre 1981. Jean, mais il n'a pas ses lunettes, donc il ne voit pas le livre dans lequel j'ai trouvé cet extrait d'article. Hervé, une petite idée, non ? Septembre 1981, c'est dans le mensuel Charlie mensuel numéro 152, c'est donc...
C'est Tuto Headline ou Jean-Patrick Manchette.
Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Donc c'est les fameuses chroniques polaires, c'est aussi un clin d'œil à Charlie. Ce n'est pas le même Charlie, hein, Charlie mensuel, mais néanmoins, donc voilà ce qu'écrivait Manchette, qui est aussi un nom que l'on associe forcément à la série noire. C'est aussi quelqu'un qui avait un regard sur... cette littérature. Alors justement, il fait référence à Marcel Duhamel. Bon, vous, dans la revue, vous n'y revenez pas, qui est le fondateur et qui a longtemps dirigé la série noire. Effectivement, autant aller lire ses mémoires, vraiment très intéressantes, hein, Raconte pas ta vie. Mais par contre, vous reprenez l'histoire de la série noire au travers de les trois directeurs qui ont succédé à Marcel Duhamel, Robert Soulin, en reprenant un texte de Robert Soulin, qui a été le deuxième directeur de la série noire. Ensuite, il y a une rencontre avec Patrick Reynal, deuxième directeur. Et enfin, deux articles, une interview consacrée à Aurélien Masson, qui est l'actuel directeur de la série noire. Hervé ?
Absolument, oui, ça a été la volonté, parce qu'on s'est dit, de toute façon, pour les 50 ans de la série noire, il y avait eu un numéro de 813 qui avait été beaucoup plus, qui retraçait l'historique de la collection, etc., la naissance, l'historique, tout ça. Nous, on s'est dit que c'était quelque chose qui était, ou qui était su, ou qui était facilement consultable. Il y a les mémoires de Marcel Duhamel, il y a un certain nombre de livres qui évoquent cela. Et donc, on a plutôt choisi de donner... et puis beaucoup a été écrit sur la série noire un peu partout, donc on a choisi plutôt des angles d'approche différents. Ce texte... de Gilles Deleuze, le texte de Robert Soula, qui fut le deuxième directeur, qui est un texte qui à la fois d'ailleurs retrace aussi un peu l'historique, mais avec beaucoup d'humour, une certaine poésie, tout ça réfléchit bien ce qu'était l'esprit, l'âme de la série noire. Et puis évidemment les deux Soula comme Duhamel ont disparu, et puis ceux qui sont toujours bien là, c'est-à-dire le troisième directeur Patrick Reynal et l'actuel Aurélien Masson, on trouvait normal de montrer ce que l'un avait apporté, que l'autre apportait, et puis de montrer ça. C'est pas à la fin du texte de présentation, on a pris un mot de Robert Soula qui disait « La série noire, cette reine de la nuit, change parce que change le monde ». C'est sa façon de rester elle-même. Ça faisait écho au fait qu'on voulait multiplier les approches. Tu le diras peut-être, mais on a également un texte autour de Jérôme Leroy. On a
D'auteurs féminins.
Et Elsa Marpeau, qui publient toutes les deux une série noire cette année, d'ailleurs, et qui... qui racontent pourquoi cette collection, quel lien elles entretiennent avec, etc. C'était un peu toutes ces choses-là qu'on voulait donner, parce que on s'en rend compte, et ce serait intéressant de vous poser la question. Vous, par exemple, comment, quand vous avez croisé la série noire, si on demande à Guy, à Jean ou à moi de citer des titres marquants, et ben il y en aura qui se croiseront, et puis il y aura pas les mêmes, parce que c'est aussi c'est toute la richesse de cette collection au fil de 70 ans, et c'est aussi pour beaucoup un souvenir, quelque chose qui remonte si ce n'est à l'enfance, en tout cas à l'adolescence. Quelqu'un comme Dominique Manotti, elle dit: j'ai l'impression d'avoir toujours connu la série noire, d'avoir grandi avec elle. Et des fois, c'est tout bêtement parce qu'il y en avait dans une bibliothèque, ou une bibliothèque, c'est beaucoup dire, un rayonnage de grands-parents, de cousins, de parents, d'amis, où il y avait plein de bouvres, il y avait plein ou pas plein d'ailleurs de livres, mais il y avait une ou deux séries noires ou plus.
Oui, justement, Hervé, là, tu m'as devancé. Donc il y a aussi quelques ovnis de la série noire que vous proposez, ouais, dans cette revue. Toi, tu en as choisi deux ovnis. Tu as choisi de Stanley Crawford le Grossium, la série noire numéro 1275, et puis John Trignant, la Baleine scandaleuse, série noire numéro 919. Entre parenthèses, il n'y a plus de numéro depuis 10 ans, la série noire. On s'est arrêté vers le numéro 2600, je pense.
Oui, à peu près. Il faut dire aussi qu'elle a changé pour des raisons notamment économiques, je pense.
De format.
Elle a changé puisqu'elle n'est plus, elle est devenue uniquement du grand format, alors que la série noire jusque-là était une collection de poche.
Oui. Alors je relais ta question auprès de Jean qui est avec nous justement.
Ouais.
Jean qui a aussi lu pas mal de séries noires.
Ouais,
combien, Jean, sur les 2000
Je suis incapable de dire.
Est-ce que quelqu'un a lu toutes les séries noires?
Je ne sais pas si c'est possible. Oui, bien sûr.
C'est pas non plus forcément recommandé, parce que forcément, avec une telle production, juste ça. Hein, il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que fut toute une époque où la série noire publiait 4 bouquins par mois, et qui avait des tirages qui étaient plusieurs dizaines de milliers. Aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. Et donc, dedans, il y avait aussi il y avait des choses extraordinaires, et puis il y avait des choses aussi très bien, et puis il y avait de la daube, comme on dit. Faut pas... Voilà.
Alors, Jean.
Oui, écoute, c'est simple. Hein, ce qu'a dit Hervé sur la série noire qui a toujours été présente, c'est exactement ça. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de bouquins dans ma famille. Alors, c'est vrai, c'était dans la famille plus ou moins proche, et bien, il y avait toujours une série noire qui traînait. Dans le livre dans lequel on allait piocher, regarder un petit peu ce que c'était. Et il me semble que le premier livre de la série noire que j'ai lu, je pense que c'est un James Hadley Chase. Je pense que c'est... Pour moi, ça a été une sacrée découverte. Un auteur avec une construction de l'énigme, etc., extrêmement forte, avec une description des États-Unis impressionnante, alors qu'il ne... Bon, en tout cas, c'est ce qu'on disait, qu'il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis. Il était anglais, je crois.
Oui, oui. Les deux premières séries noires, enfin, les deux premiers auteurs sont anglais.
Oui, absolument. Oui.
Voilà, donc je pense que c'est par là que je suis entré dans la série noire. Ensuite, il y a eu Amila. Ensuite, je pense qu'il y a eu Thompson. Je ne suis pas sûr que ce soit d'abord 1275 âmes. Il y a un autre livre que j'ai lu.
Le numéro 1000.
Un autre, alors j'ai plus le titre en tête, qui parle d'un personnage qui est frappé d'impuissance et il y a toute une description psychologique qui le fait mener à l'assassinat et qui est fort.
Alors parce qu'on doit s'arrêter pour aujourd'hui, on reviendra à Hervé et sur les publications de la série noire qui offre un programme particulier pour cette 70e année. On reviendra au cours de nos émissions. On reviendra aussi sur la revue 813, là, puisqu'il y a un dossier sur la série noire, mais il y a d'autres choses. Mais avant de nous quitter, donc Hervé et Jean, chacun à quelqu'un qui n'a jamais lu de série noire, une série noire que vous conseillez? Ah, c'est une question piège.
Là, c'est dur. Hein.
Hervé. Alors... Hervé. Eh bien, si on y réfléchit, et à la prochaine émission, on donnera cette série.
Moi, je suis très mauvais à ce genre de choses, et par ailleurs, je biaiserais, parce qu'il y en aurait... Il y en aurait plusieurs.
C'est
forcément un Raymond Chandler, mais aussi Moisson Rouge de Hamet, et puis, parce que ça, c'est les grands anciens. Mais bon, voilà, un Thomson, Le Petit Bleu de la Côte Ouest de Jean-Patrick Manchette, ça, c'est pour... Et puis, bah, des ovnis, et par exemple, oui, le Grossium de Stanley Crawford, comme l'a choisi un de mes... Jean-Paul Gratias, où grincent les chimères de Stephen Geller, des choses qui montrent... toute une variété, mais il y en a tant.
Il y en a tant. Jean, tu citais, toi ?
Je citais Oedipe, j'ai trouvé ça pas mal.
Oui,
par exemple. Hein.
Oui, ça, c'est Patrick Reynal.
Absolument. Voilà.
C'est
lui,
vas-y,
Hervé. Le coucher des hurlus de Jean Amila.
Exactement.
Ou la lune de Maa, même.
Alors, c'était Variation en noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Merci à Bernard pour la technique et à Jean donc pour sa participation à cette émission. Et rendez-vous dans un mois, fin février, pour d'autres explorations du noir. De bien bonnes lectures à toutes et à tous.
Merci.